Notre émission itinéraire reçoit aujourd'hui Jean-José Boutaric, médecin, historien, écrivain, pianiste, chanteur lyrique, comédien, violoniste depuis 5 ans, beaucoup plus récemment. Vous êtes aussi, Jean-José Boutaric, membre du groupement des écrivains médecins français. Vous êtes globalement passionné par la médecine, par l'histoire, par la musique classique. Vous avez encore aujourd'hui toujours une soif de connaissances, Jean-José Boutaric.
Tout à fait, oui. On n'arrête jamais d'apprendre.
Et c'est aussi un humaniste que nous recevons aujourd'hui.
Oui, je veux pas être, ça fait très prétentieux de dire je suis humaniste, mais j'insiste beaucoup sur la nécessité de l'humanisme en médecine. Alors l'humanisme, faut pas employer des grands mots, l'humanisme c'est tout simplement l'écoute des autres et la curiosité d'esprit.
Alors vous avez été aussi conseiller municipal à Saint-Chaffray récemment, donc la politique vous a intéressé?
Pas du tout. non, pas du tout. J'avais une délégation à culture, association, etc. Et puis tout ce qui pouvait être sanitaire. Je m'en suis vraiment, ça m'a passionné sur le plan pratique, mais surtout pas de politique.
Alors vous vivez entre Brunois, dans l'Essonne, et Saint-Chaffray. Voilà.
C'est ça, oui. J'ai une hérédité du Quercinoise, de Figeac exactement, où je vais souvent.
Alors si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour que nous revivions ensemble votre parcours de vie et que vous nous parliez également de vos bouquins, de vos romans que vous avez publiés, 9 romans en tout. Le premier en 1990, et les plus récemment, vous avez publié Les Escartons du Briançonnais, et puis Ornella ou L'Enfance retrouvée. Vous allez les dédicacer, on pourra vous rencontrer samedi matin à Charabia à Embrun.
Voilà, Charabia a eu la gentillesse de m'accorder une matinée pour faire une signature. Et donc, tous les gens qui sont intéressés seront accueillis volontiers pour j'en mettre une petite dédicace de ma main. Ils ne pourront pas sans doute la lire parce que j'écris très mal. C'est mon seul défaut, avec l'immodestie.
Et heureusement qu'il existe la machine à écrire, alors.
Oui, alors l'ordinateur m'a beaucoup, beaucoup arrangé les choses pour écrire, oui.
Bah, dites-nous quelques mots de ces deux ouvrages écrits récemment. Donc, Les Escartons du Briançonnais, tout d'abord.
Oui, alors, Les Escartons du Briançonnais, c'est parce que ça fait des années, évidemment, que je connais la région. Mais c'est surtout en venant d'une façon plus importante que j'ai pu constater et me rendre compte de tout l'intérêt qu'avaient les Escartons. On dit de République, c'est pas exactement ça. Ça a été baptisé République au 19e siècle parce que ça faisait bien. En fait, c'est une communauté qui s'auto-gérait et surtout parce que, étant moi-même d'origine donc quercinoise, comme je le disais, j'aime beaucoup ces gens qui sont du terroir et qui ne sont inféodés à personne. Ça m'a peut-être attiré des ennuis, mais enfin qui sont, tout en étant des gens consciencieux et travailleurs, mais qui ne plient les chines devant personne. Et Les Escartons du Briançonnais, c'est passionnant parce que cette histoire est d'autant plus étonnante qu'on la connaît pas en France. Et j'ai fait souvent des conférences dans d'autres régions de France où les gens sont tout à fait étonnés qu'on leur parle de ce microcosme où les gens s'auto-géraient et de part et d'autre de la frontière.
Et votre dernier roman s'intitule Ornella ou l'enfance retrouvée. Il s'agit d'un roman inspiré d'une histoire vécue. Elle se passe pendant l'exode des années 30-40.
Voilà. Alors, c'est une histoire vécue qui m'avait été racontée puisque j'étais médecin généraliste en banlieue parisienne. Et c'est une dame âgée qui m'avait raconté l'histoire qui l'avait conduite à adopter une petite fille. Et j'ai trouvé cette histoire tellement belle, de dévouement. Mais cette dame âgée avait failli 3 fois de suite être bombardée pendant l'exode. Et j'ai trouvé cette histoire très belle. Alors, je lui avais dit, mais madame, vous devriez écrire votre histoire. Oh, elle m'a dit, je suis pas écrivain, mais puisque vous aimez écrire. Et j'avais fait la promesse d'écrire son histoire. Et puis, les années ont passé. Finalement, je l'ai écrite. Et j'ai écrit 2 histoires. La biographie stricte de la jeune adoptée. mais ça, c'est pas dans le commerce. Et j'ai romancé beaucoup le début. J'ai rajouté pas mal d'anecdotes et que beaucoup de patients m'avaient raconté justement sur l'exode et aussi des épisodes qui se sont passés dans le Sud-Ouest.
Jean-José Boutaric, vous êtes aussi donc musicien et mélomane. Et vous aimez surtout la musique classique.
Alors voilà, mélomane, je ne dirais pas... Enfin oui, bien sûr, mélomane, mais je n'ai pas une très grosse érudition. J'aime bien dire comme Musset, comme disait Alfred de Musset, « Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre ». Et d'autre part, et comme disait mon père, qui est mon musicien, la musique en disque, c'est la musique un peu en conserve. Alors, j'aime mieux la faire mal parce que je suis qu'un modeste amateur, mais j'aime beaucoup la fabriquer moi-même. Alors après tout, si les oiseaux s'envolent ou que les araignées, comme celle qui écoutait Beethoven jouer du violon, remontent au plafond, tant pis pour elles, mais j'aime fabriquer la musique. C'est dur, c'est vraiment dur, et j'admire beaucoup les musiciens qui, pour... une note qui peut en passer des heures à être absolument, à être perfectionniste, moi je les trouve admirables.
Alors nous n'allons pas vous écouter, jouer ou chanter.
Ça vaut mieux pour les auditeurs.
Mais nous allons écouter du Mozart là pour débuter ce choix que vous avez effectué pour cette émission itinéraire, Jean-José Boutaric. Jean-José Boutaric, vous êtes né à Tours en 1938, avant la guerre.
Absolument, je suis de l'avant-guerre, comme on disait juste après la guerre, qualité d'avant-guerre. Mais maintenant, ça a été quand même dépassé.
Dans quel milieu social avez-vous, êtes-vous né et avez-vous grandi?
Alors, mon père était fonctionnaire, était conservateur des hypothèques, et il avait été nommé à Chinon. Et la grossesse était difficile, s'annonçait enfin pas très bien. Ma mère était pas jeune, mon père non plus, mais ça c'est surtout la maman. Et donc par sécurité, ma mère est allée accoucher à Tours. J'ai d'ailleurs failli accoucher en forêt de Chinon parce que j'étais assez pressé d'arriver en ce bas monde. Et donc je suis né à Tours. Je suis très fier car c'est vraiment une très très belle ville, Tours. Et puis alors surtout parce que à Chinon c'est le pays de Rabelais et que mon enfance, ma toute petite enfance, a été baigné par l'atmosphère de Rabelais, dont la statue est à côté d'une pont sur la Vienne, et que j'appelais d'ailleurs le gendarme. Et on me disait que si tu es pas sage, le gendarme, tu vas voir, il va pas être content.
Oui. Oui, vous n'avez pas souffert de la guerre?
Personnellement, non. On a eu des restrictions, comme tout le monde, parce qu'ensuite mon père a été nommé pour se rapprocher de mes grands-parents de chaque côté. Il a eu un poste en zone libre. Évidemment, on était comme tout le monde, et on est arrivé en Corrèze, et on s'est trouvé justement à Tulle. Et à Tulle, vous savez, il y a eu les effroyables, les pendaisons faites par la division Das Reich. Alors, dans la famille, personne n'a été ni tué, ni torturé, ni rien, mais j'avais 6 ans à l'époque. Ça marque un enfant, et d'ailleurs, tout le monde... Jusqu'à l'âge de 24 ans, je ne pouvais pas avoir un uniforme allemand, parce que ça me faisait... Alors que je n'ai jamais eu la sensation d'avoir peur, c'est très curieux. Mais ça a été vraiment une époque terrible, terrible, terrible. Et puis pour les tullistes, Dieu merci, la réconciliation a effacé ces mauvais souvenirs.
Vous avez eu vous avez des frères et sœurs?
J'ai un grand frère, oui.
Et vous avez eu une enfance donc un peu perturbée.
Oui, sur le pas. Mais vous savez, nos parents nous ont protégés. Moi, j'avais un grand frère qui, moi, j'ai un grand frère qui j'ai toujours, qui a 2 ans et demi de plus que moi, et qui a toujours protégé son petit frère. Ce qui fait que moi, je vais absolument pas me plaindre. Il y avait un très bon lycée, au lycée de Tulle, lycée de Montpellier, des bons profs. Et j'ai eu une enfance et une adolescence qui s'est bien passée. Il y avait aussi de belles petites jeunes filles, les petites tulistes, les petites limousines sont mignonnes comme tout. J'ai pas à me plaindre et je regrette pas du tout l'épisode tuliste.
Et vous pratiquez déjà le piano, enfant ?
Oui, j'ai commencé à 8 ans. On avait d'ailleurs un professeur de piano habité juste en dessous de chez nous. On avait une grande maison qui est en location, bien sûr. Et la professeure, qui était une brave vieille fille, elle me paraissait très vieille. Elle devait peut-être même pas avoir mon âge actuel, mais enfin, elle était très bon professeur.
Vous avez souhaité faire des études de médecine. Comment vous est venue l'idée ou l'envie de devenir médecin?
Eh bien, initialement, je pensais que je serais professeur. Ma mère était prof d'anglais. Je pensais que je serais prof. Et puis voilà, ça m'allait très bien. Prof de français, prof de latin, prof d'anglais. Moi, ça m'allait très bien. Mais mon père était âgé. Mes parents étaient âgés. Et en plus, je draguais, quoi. Alors, quand je suis arrivé au bac, mon père a eu très peur que s'il m'envoyait en faculté, parce qu'il n'y a pas de faculté à Tulle, s'il m'envoyait en fac, j'aurais une vie dévergondée, et puis qu'il ne pourrait pas me mener au bout de mes études, parce que, on sait, la médecine, c'est très long. Alors, un jour, il m'a dit, écoute, mon petit, tu sais, je ne suis pas tout jeune, ce serait bien que tu fasses ta médecine. Et puis, j'ai vu un médecin colonel, là, qui m'a parlé de l'école de santé militaire. Eh ben, il m'a dit, tu pourrais rentrer à l'école de santé militaire. Oh, ben, j'ai dit, oui, pourquoi pas, moi, je fais ma médecine, enfin. Et je suis rentré à l'école de santé militaire de Lyon. Ça ne cadrait pas très bien avec mon esprit d'indépendance. Mais enfin, cela dit, j'ai la plus grande estime pour les militaires. Et les études se passaient à la fac de Lyon, qui est une fac absolument remarquable. On a fait des... Vraiment, je remercie les Lyonnais, car la qualité... Enfin, je ne veux pas dire que je sois un médecin d'élite, mais très bonne qualité des études à Lyon.
Donc vous avez pris goût à la médecine.
Voilà. Et à la médecine, à la technique médicale d'une part, et au fait que elle a quand même trait à l'être humain. Et si on voulait à la technique pure, il vaudrait mieux être vétérinaire, parce qu'on peut travailler de la puce à l'éléphant, c'est beaucoup plus rigolo. Tandis que l'homme, il a son cerveau, et il faut reconnaître que ça vaut son pesant de moutarde, parce que l'être humain, c'est un être absolument sensationnel, qui est capable du meilleur comme du pire, mais c'est la médecine, et surtout la médecine générale, est passionnante.
À quel moment vous êtes-vous intéressé à l'histoire de la médecine ?
Eh bien, relativement jeune, à la cinquantaine, n'est-ce pas ? Et ça m'avait toujours intéressé. On avait toujours dans les cours de médecine, à l'époque d'ailleurs, à Lyon, on avait 3-4 lignes d'histoire de la médecine. Et j'avoue que c'est ce que j'apprenais le plus facilement, beaucoup plus que la neurologie ou les trucs un peu compliqués. Et les années ont passé, j'avais pas le temps. Parce que j'ai démissionné de l'armée et ensuite j'ai fait mon anesthésie à Paris, à l'hôpital Henri Mondor.
Et après, vous avez eu un cabinet de médecine générale.
Oui, alors j'ai fait de l'anesthésie pendant plusieurs années, d'abord comme hospitalier, ensuite comme libéral dans une clinique, mais j'avais déjà supporté la tutelle de l'armée. Alors à l'époque, c'est pas d'une tutelle, mais des petits différends avec les chirurgiens. Je dis, j'en ai absolument marre. Ce que je veux, c'est exercer, être libre. Et donc, j'ai posé ma plaque et j'ai fait la médecine générale. Et je dois dire que là, je me suis régalé. Surtout que c'était une époque qui n'est pas comme celle, hélas, qui menace maintenant les médecins. Mais ne parlons pas de politique.
Nous allons écouter une œuvre de Puccini.
Alors oui, voilà.
Et on reparlera après de votre goût pour l'histoire de la médecine. Puccini, c'est du lyrique que nous allons écouter parce que vous êtes aussi chanteur lyrique.
Oui.
Vous avez appris le chant lyrique à quelle époque ?
Et pourquoi ? À la cinquantaine à peu près. Oui, à la cinquantaine.
Donc vous avez eu une autre vie à partir de 50 ans, l'on peut dire.
Oui, un petit peu, oui. Je me suis un petit peu orienté plus vers les arts. C'est vrai que ma première vocation aurait été j'aurais voulu être comédien. Et ça, c'est exact. Mais mon père était un homme très, très pourtant très gentil, mais Je pensais qu'il le verrait peut-être pas très bien. J'ai jamais osé lui dire que je voudrais être comédien. Jamais. Jamais. J'avais même envoyé une lettre à Claude Autant-Lara pour le féliciter pour son film Le Blair Merde et lui dire de venir m'auditionner à Tulle. Quand on a 16 ans, on manque pas de culot. Et puis, finalement, je me suis dit, oh ben non, finalement, la médecine, c'est quand même pas mal aussi.
Et le chant lyrique, alors?
Alors, le chant lyrique, eh bien, c'est parce que ma prof de piano, j'avais toujours pris des cours, hein, qui était une dame qui avait eu un premier prix de conservatoire, qui était à la Scola Cantorum, à Paris, m'avait dit, mais vous savez, vous devriez chanter, il faut chanter. Alors, je m'étais dit, puisque je suis pas quand même un très bon pianiste, je vais me mettre au chant, et après, je me remettrai au piano. Et je me suis mis au chant, et j'ai eu comme prof un ancien baryton de l'opéra, qui est venu d'ailleurs faire une masterclass à Serge Chevalier, il y a quelques années, et qui est aussi un type vraiment sensationnel, et ça m'a beaucoup plu, évidemment, et ça m'a permis de me cultiver sur le plan de chant. Alors là, ce sera une soprane qu'on va entendre, sur un air que j'aimais beaucoup chanter Callas, hein. Non, de Janis Kiki, de Puccini.
Nous sommes avec Jean-José Boutaric, médecin, historien, écrivain. Vous êtes encore médecin aujourd'hui, hein. On est médecin pour toute la vie.
Toute la vie. Et puis je continue quand même à m'intéresser et puis donner de temps en temps de faire des ordonnances pour la famille ou les amis.
On peut vous rencontrer ce samedi matin à la librairie Charabia, où vous allez dédicacer plusieurs de vos ouvrages. Vous en avez publié 9 en tout. C'est pas mal quand on est médecin, parce que quand on est médecin, on est quand même pas mal occupé. Vous avez trouvé le temps d'écrire?
Surtout quand j'ai cessé d'exercer, oui. Oui, non, c'est là où je me suis mis à pondre. Hein.
Mais auparavant, vous étiez déjà intéressé. Enfin, vous aviez d'autres activités que la médecine.
Oui, sur le plan artistique, oui, bien sûr, oui.
Alors, ces deux romans dont nous parlions tout à l'heure, donc vous pourrez... les auditeurs pourront vous rencontrer et en discuter avec vous et se les procurer. Les Escartons du Briançonnais et puis Ornella ou l'enfance retrouvée. Nous parlions, avant d'écouter ce thème de Puccini, nous parlions de votre goût pour l'histoire de la médecine. Vous avez effectué des études d'histoire de la médecine à l'école pratique des hautes études en Sorbonne pendant une douzaine d'années. Et vous avez obtenu en 91 un DEA d'histoire et de philosophie des sciences. Votre mémoire s'intitulait « Observation médicale de Ludwig von Beethoven ». Pourquoi ?
Eh bien, je ne peux pas dire un compte à régler, au contraire, mais justement, depuis que je faisais du piano, j'aime beaucoup Beethoven. Beethoven correspond vraiment à mon style, parce que je suis un peu impulsif, et avec Beethoven, c'est très agréable, parce qu'on peut, ça va du très, très lent, très, très, très doux, très, très modeste, puis ensuite, boum, ça pète. Et Beethoven m'a toujours passionné, fasciné comme personnalité. Et donc, dès que j'ai eu à choisir un sujet pour un mémoire de DEA, j'ai dit à mon prof, écoutez, est-ce que je peux faire, vous voyez, sur Beethoven. Oh, il m'a dit, la surdité de Beethoven, c'est le monstre du Loch Ness, ça ressort tous les ans. Je dis, oui, mais la surdité, c'est pas, il n'y a pas que ça. Il y a toutes les maladies dont ce grand compositeur a été affligé. C'est effarant. Et alors, je me demande s'il n'est pas mort, finalement, d'ailleurs, d'intoxication au sel métallique avec lesquels on l'avait traité à l'époque, celle d'arsenic ou celle de mercure. Et j'ai donc pendant plusieurs années, j'ai compulsé tout ce qui avait pu être écrit, pas récemment, parce que là, il y a de quoi remplir tout votre studio aussi, mais sur ce qu'on appelle les principales sources, et surtout la correspondance de Beethoven et les cahiers de conversation.
Et quelques années plus tard, en 2003, vous avez soutenu une thèse de doctorat sur la diffusion de l'auscultation médiate durant la première moitié du 19e siècle. Quelle idée, Jean-José Boutaric ?
Alors, l'auscultation, ça a un côté musical. Car si on n'a pas une bonne oreille, eh ben on n'entend pas grand-chose. Maintenant, c'est moins important que cela n'a été il y a 200 ans. Mais grâce à l'échographie, l'IRM, etc. Mais l'auscultation permet d'entendre un souffle au cœur, l'encombrement pulmonaire, et c'était vraiment une découverte sensationnelle. D'ailleurs, Laennec est vraiment un personnage extraordinaire. Alors, Laennec était un très bon musicien, il était flûtiste, et dans son bouquin sur l'auscultation, un bouquin qui fait plus de 1500 pages, et chaque fois qu'il peut, il décrit les sons qu'il entend en mettant des notes de musique. Et chaque fois, pour bien montrer qu'il s'y connaît en musique. Et c'était un personnage sensationnel, Laennec. Malheureusement, Laennec a découvert l'auscultation qui a fait le tour du monde en quelques décennies. Et il l'a découvert en France, il était de l'école française, il n'y a qu'une ville où il n'y a pas de statue de Laennec et pas une rue de Laennec, c'est Paris. Merci les Parisiens.
Et à l'époque, vous êtes encore comédien, vous jouez encore la comédie aussi, vous parliez de cet amour du théâtre quand vous étiez adolescent.
Voilà, alors oui, j'avais trouvé que j'avais beaucoup aimé, je jouais au théâtre du lycée forcément, des petits rôles, ça m'avait beaucoup plu. Et j'aurais aimé faire du théâtre. Je n'ai jamais osé le dire à mon père. Et puis, j'ai pas pu évidemment prendre des cours. Mais dès que j'ai cessé mon activité médicale, j'ai pris des cours dans un conservatoire. Je me suis présenté au concours Léopold Bellan et où des prix de diction, d'art dramatique. Et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup aussi le théâtre. Oui, c'est très intéressant.
Ça vous a servi dans votre métier de médecin ?
Alors, dans mon métier de médecin, je pense que le chant et le théâtre, je crois qu'il est indispensable de savoir présenter un cas particulièrement grave à un patient. Vous voyez, ce qui arrive souvent en consultation, le patient arrive, il vous amène ses examens et vous dites « Oh là là, catastrophe ! » Il faut savoir le présenter. Et là, je pense que savoir placer sa voix, justement, ça c'est le chant, c'est très important. Baisser le ton, se calmer. Et puis aussi, faire bien attention à ne pas exprimer tous les sentiments et toute l'angoisse que l'on éprouve. Parce que ce que les patients ne savent pas, c'est qu'avant qu'ils le sachent, c'est nous les médecins qui avons toute l'angoisse et que portons tout sur les épaules. Donc, il faut savoir. Mais il y a une grosse différence entre la présentation médicale et théâtrale. parce que le comédien doit au contraire exprimer ses sentiments par son visage, alors que le médecin doit être absolument impassible. Ça, c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend, ça s'acquiert.
Dans votre carrière de médecin, vous avez été souvent, je suppose, confronté à la mort.
Et oui.
On arrive à s'habituer à...
Non. Non, jamais. Et je dirais même que plus les années passent, et plus c'est dur à encaisser. D'autant plus que quand j'ai quitté l'armée, donc j'ai fait anesthésiste réanimateur, et j'ai vécu des drames épouvantables, et qui me, même encore, j'aime quand j'y pense, là, je ne suis pas défoncé d'ailleurs, mais on vit avec la mort, on pense à la mort, et d'ailleurs dans les contes et les nouvelles que j'ai écrites, je les ai appelées les histoires macabrantes, marrante, enfin brante, ça se veut marrant, bon ça l'est peut-être pas, je sais pas, ça c'est au lecteur de juger, mais macabre, bon il y en a une sur deux qui se termine mal, par un décès.
Et forcément l'on pense à sa propre mort.
Oui, mais c'est pas une hantise. Oui, c'est une chose qui arrive un jour. Puis malheureusement, ça se rapproche quand on prend un petit peu d'âge. Je suis encore très jeune. J'ai encore au moins 30 ou 40 ans devant moi. Mais enfin...
Avec les progrès de la médecine
Oui, voilà. Grâce à mes confrères, je pense ça... Peut-être pas 40, non. Mais enfin, pourquoi pas. Il faut pas y penser, de toute façon.
Et vous disiez, on en parlait tout à l'heure, vous avez terminé votre carrière comme médecin généraliste. C'est un autre métier.
Oui, et c'est un métier... d'ailleurs, alors j'ai fait l'inverse de ce que font beaucoup de médecins. J'ai une fois un collègue qui m'a dit, toi, tu es vraiment entièrement à part, ou à part entière. Bon, j'ai commencé par la spécialité, et ensuite j'ai fait médecine générale. Et je pense que c'est pas mauvais. Parce que quand on est jeune, on est épris de techniques pures, etc. On veut en découdre contre la maladie, contre la mort, etc. Mais petit à petit, les épreuves que l'on a à subir durant les exercices font qu'on requiert justement une certaine philosophie. Et je pense qu'au fond, c'est très bien de faire la médecine générale dans un petit, quand on prend un certain âge. Malheureusement, je ne ferai pas de commentaires, mais la médecine générale et son côté humaniste, je le vois, en tout cas pour quelques années, elle reprendra. Ça fait 2000 ans que la médecine existe, et on ne voit pas pourquoi l'humanisme disparaîtrait. En ce moment, il est bien mis à mal, mais j'ai de l'espoir qu'il revienne, parce que je suis quand même un homme, qui garde l'espoir.
Et vous êtes un mélomane, entre guillemets, pas un spécialiste de la musique classique. Et vous avez choisi aussi Paganini. Pourquoi ?
Paganini est un personnage passionnant. D'abord, c'est un Italien. J'adore l'Italie, j'adore les Italiens. J'ai appris l'Italien d'ici, d'ailleurs. Et c'est un personnage haut en couleur. Et puis, on a du point de vue violonistique, il est extraordinaire. Alors, j'ai choisi un petit extrait, évidemment, que je serais absolument, même dans 20 ans, je serais incapable de jouer. Mais c'est pas le plus joli. Il a fait des concertos qui sont très très jolis. Il y a la fameuse campanelle, la clochette. Mais j'ai pris un extrait où on voit toute la virtuose de Paganini.
C'est un homme étonnant que nous recevons aujourd'hui.
Trop.
Or, la personne de Jean-José Boutary, étonnant de par le fait de vos différentes passions, médecin. Bon, c'est devenu une passion.
Ah oui, non, ça. J'aime pas bien le mot de passion, c'est intérêt, si vous voulez. C'est la curiosité et l'intérêt qu'on a pour quelque chose. Oh, la médecine, comment vous pas s'intéresser à la médecine, ça, c'est...
Il y a son histoire, en plus.
Alors.
Vous vous êtes aussi intéressé à l'histoire
de la
médecine.
Oui. Il y a l'histoire de la médecine.
Tous les médecins ne le font pas.
Et non, et c'est dommage.
Pourquoi ?
Parce que ça rend d'abord humble, parce que et on se rend compte que nos anciens ont pensé comme nous, et qui, bien sûr, ils se sont trompés, comme on se trompe, et comme on se trompera encore. Enfin, c'est très difficile. On n'a pas créé l'être humain, donc on est obligé de l'aborder comme on peut. Mais c'est un métier où on a affaire quand même à l'être humain, et ça c'est vraiment très intéressant.
Et vous avez rencontré des êtres humains extraordinaires dans votre carrière de médecin?
Extraordinaire, c'est beaucoup
dire. Qui vous ont épaté?
Oui, on rencontre des gens, mais pas forcément des gens titrés, pas forcément des gens connus ou célèbres. Mais l'avantage, justement, et c'est ce que j'aimais beaucoup en médecine générale, c'est qu'on voit des gens simples, comme on voit des gens très cultivés, comme on voit des gens célèbres, etc., et qui ont quelque chose à dire. Et les gens simples dans tous les métiers ont quelque chose à dire. Et c'est ça ce qui est intéressant aussi.
Vous avez étudié le Beethoven. Vous auriez aimé le rencontrer?
Alors, c'est très bonne question. Il y a deux musiciens que je trouve particulièrement intéressants, c'est Beethoven et Mozart. Beethoven, j'aurais rencontré Beethoven, j'aurais été les pieds entortillés autour de la chaise. Terrorisé, parce que c'était un personnage, alors qu'il était d'une gentillesse extrême. Par contre, si vous voulez, j'aurais été beaucoup plus volontiers ami avec Mozart. Avec Mozart, ça aurait été vraiment un ami que j'aurais évidemment adulé, admiré. Mais Mozart, c'est l'ami. Beethoven, c'est le maître. Mais c'est pas tout à fait exact d'ailleurs. Car quand on a étudié Beethoven, on se rend compte que cet homme était d'une grande sensibilité.
Alors, vous êtes aussi écrivain. Est-ce que c'est aussi une de vos passions, le fait d'écrire?
C'est un goût. Et surtout, ce que j'aime, c'est à partir de l'histoire. J'aime bien le roman historique. D'ailleurs, j'en ai fait. Et puis, parce que j'ai fait quand même pas mal d'articles aussi. J'aime bien ça. Et puis, l'écriture, c'est un peu comme si on pétrissait la pâte à pain, vous voyez. On la pétrit, on pétrit, etc. Et alors, l'ordinateur a ceci de merveilleux, c'est que on peut couper, recoller, rechanger, etc. Tandis qu'avant, au début, quand j'écrivais ça, qu'on n'avait pas encore les ordinateurs, il fallait raturer. Alors, déjà qu'on peut pas me lire, c'était quelque chose d'épouvantable.
Pour qui vous écrivez? Parce que vous publiez, alors, vous publiez pour être lu. Et par qui? Pour qui?
Ben, pour les gens que ça peut intéresser. J'écris en fonction de moi-même, parce que je vais pas j'ai pas besoin d'écrire pour gagner ma vie, mais j'ai pas besoin de lécher les bottes de qui que ce soit, mais j'aime bien écrire, puis j'aime bien avoir des lecteurs qui le lisent, qui me lisent, voilà. Bien sûr. C'est de même que faire la musique, il y a un côté ludique, et encore que ça demande tellement de boulot que moi, je me demande si c'est pas un peu de masochisme. Mais enfin, bon. Mais on fait de la musique pour autrui aussi. Quand on interprète, c'est pour essayer de faire plaisir à son auditeur, comme on essaye de faire plaisir au lecteur. Quand on écrit, c'est pareil.
Comédien également. Alors, est-ce que tout au long de votre carrière de médecin, et puis jusqu'à aujourd'hui, vous avez un moment où régulièrement joué la comédie?
Oui, quand j'étais
ou des drames.
Ici, on avait monté un petit groupe de théâtre, mais surtout à Paris, on avait avec notre prof de théâtre, on avait un groupe très solide et on jouait alors bénévolement, bien sûr, dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Et alors c'était très formateur parce que dans les maisons de retraite, ils arrivaient sur des chariots roulants, ils étaient à moitié endormis souvent. Et c'était alors il y a une fois, il y a une brave dame qui dit pour un copain qui avait la voix très forte. Et il dit, il m'a réveillé celui-là. Ben, je lui dis, heureusement que t'es là, parce que non, je n'y arrivais pas. Enfin, j'aimais bien. Oui.
C'est votre côté un peu humaniste, parce que vous donniez, enfin, les recettes allaient à des bonnes œuvres.
Oui, ah ben voilà, c'est ça, on avait appelé ça les tréteaux de Rabelais. Parce que Rabelais avait écrit d'ailleurs une comédie. Et Rabelais, c'est pas mon maître à penser, mais enfin quand même, j'adore Rabelais.
Quel a été votre meilleur rôle? Celui qui vous a le plus marqué, que vous avez aimé le plus jouer?
Alors, on a joué pas mal de Courteline. J'aimais bien comment ça s'appelle ce film au moment que j'ai pas joué, le rôle d'un jeune écrivain là justement qui a une petite maîtresse qui est adorable mais qui est un peu tête en l'air. Maintenant la mémoire fout le camp. Mais non, j'aimais beaucoup Courteline et puis on choisissait des pièces gays. Ce que j'aurais beaucoup aimé interpréter si j'avais été comédien, c'était la Reine morte de Monterland. Ça alors là, j'avais étudié au cours des passages. Oh là là, c'est sublime à jouer.
C'est un regret aujourd'hui que vous pouvez contempler votre vie, votre parcours, de ne pas finalement avoir été comédien.
J'aurais aimé, mais je préfère avoir été médecin.
Pourquoi?
Parce que ça a un côté plus positif. Enfin, malheureusement, pas toujours. On peut pas guérir tout le monde. Et de toute façon, on est tous condamnés. C'est un travail qu'on est vécu, mais c'est un travail qui n'est pas pérenne, puisque de toute façon, on n'empêchera jamais les gens de mourir. Mais non, c'est une dimension différente. Mais c'est quand même très agréable d'être comédien. Et ce sont aussi des gens qui cherchent la perfection, être vraiment toujours avoir bien interprété leur personnage. Non, c'est très bien aussi.
Donc médecin, historien, écrivain. Comédien, pianiste également?
Oui, enfin, je dis, attention, amateur. Hein.
Mais depuis votre plus tendre enfance,
oui.
le piano vous a accompagné?
Oui, c'est ça. Puis j'ai toujours, donc c'est ce que j'ai toujours préféré à jouer, c'était les sonates, enfin pas toutes, hein, de Beethoven, la pathétique, elle m'a suivi toute mon enfance. Et puis je l'ai travaillé, retravaillé. Alors bien sûr, je peux pas la présenter par rapport à un professionnel, c'est pas la même chose. Mais c'est une œuvre magnifique aussi.
Mais chez vous, vous avez un piano et vous jouez régulièrement?
Ben en ce moment, je me consacre au violon. Je trouve que ça fait déjà beaucoup de boulot et j'attends de pouvoir m'en sortir, d'avoir un coup d'archet suffisant pour pouvoir bien m'exprimer en violon.
Mais pourquoi vous êtes-vous mis au violon?
Alors,
il y a peu de temps, enfin il y a.
Ah ben je vais raconter l'anecdote si on a le temps. C'est assez curieux. Bon, je vous dis, mon père était violoniste. Il était premier violon dans un orchestre d'amateurs, bien sûr, à Tulle justement. Premier violon à Tulle. Il faisait faire de violon à mon frère. Mon grand frère, ça lui cassait les pieds. Il le faisait parce qu'il fallait le faire. Et puis moi, j'avais dit que je veux faire du piano pour me démarquer de mon grand frère. Voilà. Bon. Et puis, à 15 ans, un jour, je dis à mon père, tiens, tu pourrais j'aimerais bien un peu, ça me démangeait un peu. Alors, mon père ravi, ah oui, tiens, mon petit. Et alors, il m'a donné quelques leçons. Et puis, les années ont passé, j'ai fait ma médecine, il n'était plus question de faire même, la médecine, c'est du 100%, presque. Pas tout à fait, quand même. Mais enfin, bon. Puis un jour, figurez-vous, l'anecdote parce que je suis pas superstitieux, mais quand même. J'étais donc à Figeac, il y a des très belles, très, très, très jolies églises, et puis c'est une ville magnifique, hein, sur le plan architectural. Et j'étais allé écouter un concert de trompette. Bon. Très intéressant. Et tout d'un coup m'est venue l'idée de faire du violon. Dans cette église où mes parents ont été, enfin, d'être allés au cimetière, il y a eu la cérémonie religieuse. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et je me dis, voilà, si demain... Alors, on revenait sur Saint-Chaffré, justement. J'ai dit, si demain, sur la route, j'entends le concerto de Mendelssohn, eh bien, je me mettrai au violon, juré, craché. Je dis, à moi-même. Hein. On démarre, on part de Figeac, on passe par Rodez, et avant d'arriver à Rodez, j'oublierai pas jamais, enfin, je connais bien, d'ailleurs, il passe le concerto de Mendelssohn. Ah, oh, je dis, il va falloir que je m'y mette. Et je me suis mis au violon.
Et alors aujourd'hui,
j'ai encore beaucoup à apprendre parce que c'est la technique de violon est très très difficile. C'est vrai que c'est vraiment l'instrument du diable. Il y a tellement de nuances. Et alors, comme je suis très, comment dire, j'aime bien, je rentre à fond, alors que le violon, c'est tout en nuances, tout en subtilité. C'est dur. Mais ça fait rien, c'est du boulot, mais c'est pas grave.
Aujourd'hui, Jean-José Boutaric, en début d'émission, nous parlions de votre soif de connaissances. Vous êtes en manque de quoi aujourd'hui ?
De rien.
Non, mais en termes de connaissances, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ou quels sont vos projets ?
Ben, alors, moi, je suis en train de travailler sur un autre bouquin, bien sûr. C'est le roman historique. Alors, je suis en train de travailler sur l'histoire d'une histoire qui s'est passée justement dans l'OPI du Quercy. Et d'un garçon qui est ensuite monté à Paris comme dans le 19e siècle. Mais ça me demande beaucoup de boulot parce que, en fait, on connaît beaucoup l'histoire, la grande histoire, mais toute cette histoire de ces gens modestes, et c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est ces gens qui ont fait le pays, qui en ont bien, qui n'étaient pas si malheureux, c'est pas vrai, ils n'étaient pas malheureux, mais indépendants, farouchement indépendants, qui ne dépendaient de personne, et quand ils avaient besoin, ils bossaient, ils mettaient un chou, et on le met de côté. Et ben ça, c'est des gens, et c'est ce personnage que j'espère arriver à faire ressortir, et ça me passionne. Seulement, je vais donc régulièrement à la Bibliothèque nationale, c'est une merveille la Bibliothèque nationale, où il y a tous les bouquins, et puis aux archives, évidemment, pour retrouver des textes de l'époque. Mais en ce moment, je suis avec ce personnage, je vis avec lui, je laboure.
Vous êtes né en 1938, vous avez 77 ans. Comment vous regardez l'évolution de notre monde et de ce qu'il est devenu aujourd'hui ?
Alors, je suis ravi. Ravi d'être à cette époque, parce que c'est une époque de transformation extraordinaire. On vit une sorte de renaissance. Vous savez qu'il y a eu plusieurs renaissances. Il y a eu celle de sous Charlemagne. Il y a eu celle du 12e avec la construction des abbayes, le développement des universités. La renaissance, qu'on appelle la renaissance 16e siècle. Et à l'heure actuelle, avec la technique nouvelle, on vit une nouvelle renaissance. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a un malaise. C'est parce que vous avez, il y a un mélange dans les pays occidentaux, il y a un mélange entre les Néandertaliens et les Cro-Magnons. Le Cro-Magnon, c'est l'artiste, celui qui a évolué. Le Néandertalien, c'est le brave, mais qui apprend son métier, mais qui le fait comme on faisait autrefois en faisant son sillon. Et les Néandertaliens sont des braves gens, mais ils ont eu du mal à évoluer. D'ailleurs, ils auraient disparu, ça m'étonne d'ailleurs. Enfin bon. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est de vivre dans une époque de transformation. C'est sensationnel. Alors évidemment, il y a des grandes idées qui sont remises en cause. Et c'est normal, c'est très bien. Mais les gens ne se rendent pas compte du bonheur que l'on a de vivre dans une évolution pareille.
Merci Jean-José Boutaric. Nous allons terminer cette émission. Nous avions débuté avec Mozart, côté musique. Nous allons la refermer avec Beethoven.
Ah, très volontiers, parce que surtout que la 7e symphonie, c'est alors là, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Merci à vous, en tout cas. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie.
Merci.